Philosophe et écrivain, bonsoir Raphaël Enthoven.
Bonsoir les amis.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir cher Alain.
On va revenir sur cette accusation, parce que c'en est une, celle d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, après le meurtre assis dans le Var, à Puget-sur-Argens. Il dénonce un racisme d'atmosphère entretenu par Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur.
Il y a un climat entretenu par un certain nombre de ministres, effectivement, aujourd'hui, qui cherchent à assimiler nos concitoyens musulmans aux frères musulmans, par exemple, et qui laissent penser qu'il y a aujourd'hui une menace qui serait liée à la confession de quelques-uns parmi nous. On a quand même une forme de banalisation du racisme. Il s'est devenu une forme légitime d'expression. Malheureusement, on peut constater jour après jour que le ministre de l'Intérieur cherche à minima à créer une forme de racisme d'atmosphère, en tout cas le laisser perdurer, laisser penser que ce n'est pas une pensée absurde.
Racisme d'atmosphère, ça existe, Alain Duhamel ?
Ben, moi, je ne dirais pas ça. Je suis tout prêt à ce qu'on revienne sur ce que vient de dire Faure à propos de Bruno Retailleau. Je pense que c'est dire racisme d'atmosphère, c'est un peu trop globalisant. Je dirais qu'il y a un racisme d'atmosphère et que ce racisme d'atmosphère, il est croissant. Mais je dirais pas que c'est globalement vrai. Je sais que beaucoup de gens sont pas d'accord avec moi. Je pense que la France n'est pas un pays raciste. On a des institutions qui sont explicitement antiracistes. On a une législation qui est antiraciste. On a des tribunaux qui sont antiracistes. Et on a une tradition historique qui se veut, en tout cas, antiraciste. En revanche, oui, il y a en ce moment, dans l'atmosphère, de plus en plus de racisme contre les immigrés, de racisme...
Et de la part de qui ? C'est alimenté par Bruno Retailleau et certains médias, comme le dit...
Alors, je termine d'abord sur globalement, mais ouais. Je suis tout à fait disposé à parler de Bruno Retailleau en particulier et de Roland. Ça existe contre les immigrés, contre leurs descendants, contre les Arabes, contre les Juifs, contre tout le monde. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est un mouvement qui, pour le coup, n'est pas un mouvement français du tout, mais qui est un mouvement, j'allais dire, universel, mais qui choque plus dans des pays qui sont des pays démocratiques. Alors maintenant, s'il s'agit de dire si Bruno Retailleau en est à l'origine, disons que le ton qu'il prend, les thèmes qu'il développe, la tradition dont il vient et son propre style... Ça ne détend pas l'atmosphère.
Racisme d'atmosphère, Raphaël Enthoven.
On pourrait définir ce que c'est que le racisme d'atmosphère. Oui. Le racisme d'atmosphère, c'est tout ce qui relève du racisme sans pour autant tomber sous le coup de la loi. Voilà, tout simplement. Ce sont les mille et une façons que l'on peut avoir d'être raciste sans tomber sous
quoi,
le coup de la loi.
Comment ?
Pour certains, ce seront des micro-agressions, pour d'autres, telles déclarations. C'est une définition qui, à partir de là, est très floue, puisqu'elle englobe tout ce que les uns et les autres voient comme du racisme. Dans le cas d'Olivier Faure, on sent qu'il aimerait bien imputer le crime lui-même à ses adversaires politiques, mais qu'il peut pas le faire, parce que c'est pas Mélenchon, Olivier Faure, si vous voulez. Mélenchon, n'hésitez pas à reprocher à Cazeneuve la mort de Rémi Fraisse. Olivier Faure, il va pas jusque-là. Donc, comme il peut pas aller jusque-là, il fait du Faure, il fait une synthèse, il se rabat sur le racisme d'atmosphère, ce qui est suffisamment diffus pour incriminer ses adversaires, sans le faire vraiment. Et parce que les déclarations de Retailleau que Faure brandit, puisqu'il faut qu'on parle de Retailleau quand même, c'est la dépossession culturelle et identitaire, ou l'idée qu'une société multiculturelle serait forcément une société multiconflictuelle. Ce sont des éléments du débat.
Oui, c'est des opinions.
On n'est pas en présence de professions de foi haineuses, xénophobes ou racistes. Par ailleurs, le même Retailleau a déclaré que chaque acte raciste était un acte anti-français. Donc, je trouve que l'accusation tombe un peu à plat. Mais juste pour finir sur Olivier Faure, que Faure dise ça, ça ne manque pas d'ironie parce que lui-même, pardon de changer de sujet, mais avec l'adoption toute récente chez lui du lexique du génocide à Gaza, c'est-à-dire du discours qui, chaque fois qu'un juif est agressé parce qu'il est juif, brandit le génocide à Gaza comme un sauf-conduit, avec l'adoption de cela, Faure favorise un antisémitisme d'atmosphère, pour le coup, dont il porte, à mon avis, la responsabilité.
Bon, alors,
si on applique sa logique, ça marche.
Alors, Olivier Faure, il est au cœur de sa campagne, donc
c'est les pompes de campagne.
Il utilise... Ah bah oui Mais bien entendu, il peut y avoir le vote décisif en ce qui le concerne, c'est après-demain.
Ouais. Donc oui, il faut quand même prendre la mesure, de l'abîme entre la petitesse du souci et l'ampleur des conséquences.
Ça, c'est votre avis.
Il est en campagne et il fait basculer toute la gauche en enfer.
C'est votre avis. En tout cas, le mien, c'est que ça sent beaucoup trop le propos de campagne.
Non, mais ce que, mais au-delà du propos de campagne, ce que dit Olivier Faure et ce que disent d'autres personnalités de gauche, c'est de dire, on parle toujours de l'immigration, des musulmans, dans certains médias, dans la bouche de certains hommes politiques, et ça favorise donc un racisme d'atmosphère.
Il est évident que quand on utilise de façon répétée, voire inlassable, un certain nombre d'arguments, ça contribue à fabriquer une atmosphère. Oui, bien sûr.
Gabriel Attal dit qu'il faut interdire le voile dans l'espace public pour les moins de 15 ans. Est-ce que c'est du racisme atmosphère ? Un exemple concret.
Je trouve que c'est une gaffe, déjà. Et en plus, je trouve que lui, que je trouve en règle générale intelligent, ne l'est pas sur ce coup-là. Plus largement, quand on parle de racisme d'atmosphère, et je répète, je trouve qu'il ne faut pas globaliser. Mais à ce moment-là, il faut aussi dire, oui, il y a un racisme anti-arabe, oui, il y a un racisme anti-juif, moins ceci, moins anti-noir, tout ce qu'on veut. Il y a aussi un racisme anti-blanc qui existe.
Ah, mais il est nié par beaucoup.
Je ne le nie pas. Il existe. Je pense qu'il y a des réflexes racistes qui viennent de partout. Et le rôle d'un État, d'un gouvernement et des institutions, c'est d'empêcher que ces mouvements antagonistes, simultanés et contradictoires n'aboutissent pas à plus de violence qu'il y en a déjà.
Je reviens sur Gabriel Attal parce que dans son propos, Olivier Faure dit « Voyez, on parle des frères musulmans et on tend à dire que tous les musulmans sont des islamistes. Est-ce qu'il y a cet amalgame qui est entretenu par certains ?»
L'amalgame, c'est Olivier Faure qui le fait, en l'occurrence. Croire qu'on s'attaque aux musulmans quand on dénonce le réseau frériste, les tentacules du frérisme musulman, c'est celui qui entend musulman quand on parle des frères musulmans, pratique lui-même l'amalgame qu'il dénonce et tombe sous le
coup. Mais derrière, quand Gabriel Attal fait une proposition choc au même moment en disant il faut interdire le voile dans l'espace public pour les moins de 15 ans.
Oui, c'est une sottise, à mon sens. C'est une sottise dangereuse, d'ailleurs, délétère, n'a aucune chance d'advenir, c'est de la démagogie. Je regrette de le dire, mais c'est ce qui me paraît le cas. Juste un point. L'un des problèmes du racisme, c'est qu'il y a deux choses qui le favorisent. La libération de la parole et l'autocensure. Le racisme est favorisé par la libération de la parole parce que quand on se sent libre de balancer les conneries qu'on veut, eh ben on y va. Et quand on a une chaîne qui nous appelle et qui nous invite à le faire, qui fait comme si c'était le sel de la terre, eh ben on y va. La libération de la parole est propice à un climat de haine, bien sûr.
Sur les réseaux sociaux aussi.
Bien sûr. Et l'autocensure ne l'est pas moins, c'est-à-dire le refus d'aborder certaines questions ou le sentiment qu'il est délétère ou propice au racisme d'aborder certaines questions n'est pas moins propice au racisme. Donc il y a vraiment les deux éléments. La libération et l'autocensure.
Sur la libération, vous évoquiez les réseaux sociaux. Il est évident que ça a fait changer le climat, je dirais même, de nature. Mais oui, les réseaux sociaux, c'est pousse au crime. Et en matière de racisme, c'est une évidence. C'est à la fois dévastateur, très inquiétant sur l'état mental de ceux qui les utilisent, et très embêtant parce que des enfants et des adolescents y ont accès, et que ça n'est pas la meilleure façon de les préparer à vivre dans une société qui, que ça leur plaise ou pas, sera multiple, sera multiethnique, et dans lesquelles il faut savoir avoir des codes communs et des convictions communes. Et de ce point de vue, le rôle des réseaux sociaux est affreux, et le rôle de ceux des médias qui reprennent ça, ou qui jouent avec ça, ou qui ils font allusion sans le dire vraiment, etc., est évidemment catastrophique.
Est-ce qu'on est arrivé dans cette France que dénonçait Gérard Collomb avant de quitter le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire non plus côte à côte, mais face à face? Est-ce que c'est ça qui, petit à petit, est en train de monter et de se produire alors ?
Je ne sais pas, mais ce qui est vrai, Alain Duhamel a tout à fait raison de dire à quel point les réseaux sociaux ont un effet dévastateur. Parce qu'un réseau social vous donne le sentiment que votre opinion est légitime et que vous avez le droit même de tenir votre opinion pour la vérité, que vous avez même le droit de vous identifier à votre opinion comme un signe de votre identité. Autrement dit, la structure même des réseaux sociaux favorise un tropisme identitaire, favorise une polarisation. D'ailleurs, le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est l'expérience qu'on en fait chacun. On entre sur un réseau social avide de discussion et on se retrouve immédiatement capturé, vampirisé par les gens qui pensent comme nous et détesté par les gens qui pensent différemment. La polarisation sous l'effet des réseaux sociaux est un problème démocratique, mais c'est un problème crucial.
Et c'est ce qui est démontré par la façon dont se constitue immédiatement sur les réseaux sociaux des clubs, des concentrations de gens qui sont du même avis et qui veulent se retrouver parce qu'ils sont du même avis. C'est-à-dire que le débat, pour le coup, ne les intéresse pas du tout. L'opinion des autres ne les intéresse pas. Mais eux, ils cherchent à se démontrer qu'ils ont encore plus raison qu'ils ne croient avoir raison parce qu'ils ne parlent qu'avec des gens qui raisonnent de la même façon.
Oui, mais là, on parlait de l'instrumentalisation du racisme, mais aussi de l'instrumentalisation parfois de l'antiracisme. On est souvent accusé d'ailleurs du Parti socialiste avec les racistes d'avoir fait l'objet politique dans les années 80.
Bien entendu.
Est-ce qu'Olivier Faure est en train d'instrumentaliser l'antiracisme? Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il était en campagne.
Oui, il est en campagne et puis il faut pas en faire non plus le centre de la vie politique française. Donc c'est une maladresse ou une fausse finesse plutôt d'ailleurs à deux jours d'un vote.
Les insoumis disent la même chose, Retailleau.
Ils disent pas la même chose, ils le disent plus violemment. Mais que dans le monde politique, mais pas simplement dans le monde politique, dans le monde médiatique, dans le monde intellectuel, dans le monde tout court d'ailleurs, que chacun ait tendance non seulement à avoir des convictions et des idées fausses, l'un n'empêche pas l'autre du tout, au contraire, même je dirais que l'un alimente l'autre, mais ça ne suffit pas dans la mesure où il y a des moments où certains prennent le risque d'accélérer les choses et sont d'un niveau suffisant pour en avoir conscience. Et ça, c'est un peu ce à quoi on assiste en ce moment.
Prenons l'exemple du racisme anti-blanc, par exemple, dont vous avez raison de dire qu'il existe.
Qu'il est nié par certains.
Oui, mais qu'il existe.
Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est la façon dont il est nié. D'abord, son existence n'est pas douteuse, au sens où il n'est pas douteux que des individus se font agresser en cette qualité.
Bah oui.
C'est parce qu'ils sont blancs qu'on les insulte ou qu'on les agresse. Donc, il existe du racisme anti-blanc. Quel est l'argument des gens qui disent que le racisme anti-blanc n'existe pas? C'est très intéressant. Comment peuvent-ils le dire? Ils disent, le racisme anti-blanc n'existe pas parce qu'il n'existait pas. Il n'y a pas d'histoire du racisme anti-blanc. Il n'y a pas de ségrégation des blancs. Et comme il n'y a pas d'histoire, comme il n'existait pas, l'ombre portée de cette inexistence fait qu'aujourd'hui, on est fondé à dire qu'il n'existe toujours pas. C'est-à-dire, il suffit de prendre le racisme comme une histoire et non plus comme le simple geste qui consiste à agresser quelqu'un en raison de sa couleur de peau, pour immédiatement dissoudre le racisme anti-blanc et considérer qu'il n'existe pas.
L'autre argument, c'est de dire dans un pays où majoritairement les blancs sont majoritaires, il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc.
Ça n'a jamais empêché quoi que ce soit.
Mais la majorité n'a jamais empêché
racisme. Vraiment,
les mêmes dire d'ailleurs que le racisme est systémique et même parfois d'État en France.
D'État, oui, bon ça, c'est...
Mais l'accusation, l'accusation de racisme d'État, elle est vieille comme le monde en fait. Au XIXe siècle, les marxistes tenaient l'État pour une superstructure destinée à asseoir les pouvoirs de la bourgeoisie. C'était déjà le grand procès d'intention fait à l'État. Aujourd'hui, on l'accuse d'institutionnaliser le racisme. En réalité, c'est une accusation qui a 150 ans. C'est le propre de l'extrémisme. État de droit.
Et le racisme, on l'a vu en œuvre, en permanence, dès qu'il y a découverte, cohabitation ensuite, mais au départ, découverte. Il y a à ce moment-là des réactions instinctives. C'est différent de nous, donc c'est dangereux, donc c'est antagoniste, donc il faut se méfier, donc il faut être hostile. Bon, mais dans l'histoire, on a vu ça sans arrêt.
Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un pays où, aux dernières élections législatives, le Rassemblement national a fait 11 millions de voix. Il y a le Rassemblement national, il y a d'autres partis de droite ou d'extrême droite, qui notamment Reconquête d'Éric Zemmour. Il y a cet acte isolé, parce qu'au départ, le coupable, c'est quand même celui qui a pris son arme et qui a tiré. On est dans une France où, quand on vote Rassemblement national, c'est qu'on a peur de la manière dont le pays avance, ou évolue, ou il se transforme.
Oui.
Est-ce que ça peut se reproduire? Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une France qui va se faire face à face avec une perspective d'élection présidentielle d'ici 2 ans? Est-ce que c'est une France où on peut avoir un climat de guerre civile entre ceux qui veulent retrouver la France d'avant et ceux qui sont aujourd'hui la France de maintenant?
Jusqu'à présent, la France n'a pas été un pays qui organisait, qui supportait et qui encadrait des antagonismes raciaux, comme par exemple, ça a été longtemps, si longtemps le cas
aux États-Unis.
Bon, nous, nos thèses officielle.
Une ségrégation.
C'était
l'universalisme et l'assimilation.
C'était l'inverse. C'était exactement l'inverse. Que maintenant ça soit remis en cause dans la pratique, ça existe. Mais comme je le disais, enfin comme j'essayais de le dire au début, la différence c'est qu'en France, les institutions, la législation font tout pour empêcher ça. Alors qu'il y a trop de pays dans lesquels c'est constitutionnalisé et mis en œuvre par des gouvernements.
Et Bruno Retailleau a dit d'ailleurs que cet acte raciste était un acte anti-français.
Absolument.
Mais la loi et la République, si magnifique soit-elle, ne protège qu'imparfaitement contre le racisme ou contre l'antisémitisme, d'ailleurs.
Bah, évidemment.
Mais oui, et sauf que ça a une conséquence, ça. C'est-à-dire que les lois auxquelles nous sommes très attachés, comme les lois qui répriment l'incitation à la haine raciale, etc., ces lois-là n'ont que peu d'efficacité face à quantité d'expressions souterraines du racisme qui existent à l'abri de la loi et qui prospèrent à l'abri de la loi. C'est la raison pour laquelle le racisme ne se combat pas par la loi, il se combat par le débat. Il se combat sur le terrain de l'opinion.
À condition de pouvoir aussi...
Moi, je dirais autrement.
Aborder tous les thèmes.
Je pense qu'il se combat des deux façons.
Je pense Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut faire fi de la loi.
Je pense que la loi crée quand même... non pas des limites réelles, mais la recherche de limites. Et que de ce point de vue, la loi a une vertu pédagogique. Et quand elle a des conséquences juridiques, c'est une pédagogie qui peut être, le cas échéant, contraignante.
On a renforcé les lois.
Mais il faut se rappeler les discussions qu'il y a eu au moment où il y a eu les lois Guesso.
Les lois Taubira aussi.
Voilà, mais c'est à ce moment-là un sujet de discussion.
Oui, mais voyez, par exemple,
puisque c'est discuté, ça prouve bien que ça n'est pas indifférent et que ça n'est pas forcément inefficace.
Il est accusé de restreindre la liberté d'expression.
Bien entendu, mais je répète ce que je disais. Oui. Si ça n'avait aucun impact positif de faire des lois antiracistes, il n'y aurait pas, à chaque fois qu'on les fait voter, une opposition aussi véhémente pour expliquer soit que c'est dangereux, soit que ça ne sert à rien.
Pour aller dans le sens de ce que dit Alain, effectivement, les lois ont le mérite d'exister et de fournir un cadre, mais l'erreur, l'illusion et le danger seraient de se satisfaire du cadre qu'elles fournissent.
Bien sûr.
Et de s'en tenir à ça. Aujourd'hui, voyez par exemple en ligne sur les réseaux sociaux, voyez des films qui représentent Meyer Habib au-dessus d'une marque de pizza Four à Pierre. Sur le principe, on parle de pizza avec Meyer Habib, donc il y a aucun problème. En réalité, c'est un juif qu'on désigne associé à un four, à l'image d'un four. C'est objectivement antisémite, c'est même antisémite de façon virulente, mais la loi ne peut rien contre ça. La loi ne peut rien contre ça, c'est uniquement le débat, la dissection, l'opinion et la prise
La loi ne peut pas tout, mais la loi...
Mais il y a une question, pardon.
Joue un rôle de petite digue.
Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, où est-on le plus libre ? Est-on plus libre dans un pays où on a le droit de dire mort aux juifs ou mort aux arabes dans la rue ou à la télé? Ou bien est-ce qu'on est plus libre dans un pays où une telle chose est interdite? Et ça, c'est une vraie question. A priori, on est plus libre là où on peut le dire. En réalité, on ne l'est pas, car c'est une parole qui en elle-même est une parole de censure.
Ce qui est une différence fondamentale entre la France et les États-Unis.
Voilà.
Aux États-Unis, la Constitution prévoit qu'on est libre de dire n'importe quoi. Et ce sont les mêmes dirigeants américains qui nous font des remarques désobligeantes en disant que vraiment, on est des dégénérés bons à rien.
Merci Raphaël Enthoven, merci Alain Duhamel. Merci. Raphaël Enthoven, si on veut vous lire aussi... Il y a le magazine Franc-Tireur
qui paraît demain sur le congrès du Parti Socialiste. Ben
justement, sur la guerre des roses.
Oui, avec un entretien avec Nicolas Maillère-Rossignol. Et
alors, qui va gagner le choc des titans?
Malheureusement, je ne saurais le dire. Mon cœur balance. Non, mon cœur ne balance pas, mais c'est le cerveau qui balance.
Les électeurs qui trancheront après-demain, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, jeudi soir.
Jeudi soir.
Plutôt Olivier Faure qui est bien placé.
Je pense que c'est lui qui va gagner.
Nous, on est en campagne contre Olivier Faure, mais c'est lui qui va gagner.
Je pense qu'il va gagner parce qu'il a le renfort de Vallaud.
Mais Boris Vallaud qui s'est prononcé en sa faveur, qui était le troisième.
Oui, mais enfin, Vallaud n'est pas propriétaire des voix des gens.
Et puis, à titre personnel.
Certainement, c'est vrai d'ailleurs dans tous les votes, mais il n'empêche que l'un profite d'un engagement de Vallaud et pas l'autre.